Ce qui va se passer maintenant au début du 19e va être très bref et très violent et très rapide. L'historien Yves Benoît a qualifié ça de démence coloniale. D'un seul coup, les choses reprennent la situation hantée. Là, il y a l'abolition qui est révoquée en 1802, mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes sortes de choses qui vont avoir lieu, comme les interdits de voyager, comme les interdits de mariage mixte, etc., etc. En quelques années, le retour en arrière est extrêmement violent. Et dans ce retour en arrière vont apparaître les premiers textes de la racisation. Les premiers textes de racisation, le premier texte historique de la racisation en termes, enfin même si ça a été anticipé avant par Buffon, c'est Viret, qui écrit en 1800, et voici ce qu'il dit en 1800, Jean-Joseph Viret, « L'espèce humaine n'est donc pas perfectible d'une manière indéfinie, comme l'ont cru plusieurs philosophes, son intelligence est bornée par sa constitution physique. » Tout est dit. Et ensuite, si on continue, alors je vais aller un tout petit peu plus loin que l'époque que je considère, parce que c'est pour montrer la direction, Gobineau, 1153, « Cette question est au fond celle de la perfectibilité indéfinie de l'espèce et de l'égalité des races entre elles. Sur les deux points, je réponds non. » Et à la même époque, vous avez un musicologue important qui s'appelle Fétis, qui lui va se charger de transporter dans la musicologie et dans les théories musicales les questions raciales. Voici Fétis. « L'histoire de la musique est inséparable de l'appréciation des facultés spéciales des races qui l'ont cultivée. » Et je continue. « Mais ces opérations sentimentales et intellectuelles se font en eux, chez les Noirs, dans les limites plus étroites, à raison de l'infériorité de leur conformation cérébrale. » Donc voici, la racisation s'est mise en place. Cette fois-ci, il y a un trait absolument, il y a une frontière absolument infranchissable entre les uns et les autres. Il n'y a plus de possibilités. On peut penser que c'est limité au 19e, pas du tout. Voici un écrit que tous les étudiants en musicologie ont eu entre les mains sur le Chevalier de Saint-Georges. Regardez, La Laurencie, 1923. Le Chevalier de Saint-Georges était, en dépit de son teint, un tendre, un sentimental. Or, c'est d'autant plus... C'est du racisme pur et simple, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est d'autant plus étonnant, si on peut dire, c'est que c'est le premier à mettre en avant le Chevalier de Saint-Georges. Il a écrit une monographie sur le Chevalier de Saint-Georges, qui est la première du genre, dans laquelle il met enfin le Chevalier de Saint-Georges sur la première place. En fait, on ne le connaissait pas avant, on n'avait que des légendes sur lui, et lui, en tant que musicologue, il fait ça. Voici le maintien de cette racisation dont je viens de vous parler. Et on n'en est toujours pas sorti. Hein. C'est quelque part toujours là. Je prendrai un exemple de mémoire. Une encyclopédie... Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, on est dans la même mouvance. Une encyclopédie très importante qui est parue il y a quelques années, en 2005, une encyclopédie, sur toutes les musiques du monde, dans laquelle on parle du maintien des rythmes dans l'émigration depuis l'Afrique. L'émigration, le bateau négrier, l'émigration. C'est comme ça qu'on traite de la traite négrière dans un livre savant. C'est du négationnisme pur et simple. Hein. On en est là, dans la musicologie. On en est à ce stade-là. Je parle de la musicologie européenne, bien sûr. Donc voilà, les dégâts sont toujours là. Hein. Ça n'a pas bougé. Alors par rapport à ça, ce qu'on peut dire sur... Alors je ne montre pas ça tout de suite parce que je voudrais faire quelque chose avant. Sur le plan du réel, de ce qui se passe réellement dans le monde des habitations antillaises, eh bien il y a, comme je vous l'ai dit, un retour en arrière extrêmement violent. Et je vous en donne deux exemples que l'on peut... Alors toujours, c'est toujours pareil, hein, la justice domestique laisse peu de traces et il faut faire vraiment un travail. Encore une fois, je vous renvoie au café Frédéric Régent sur Hans Bertrand. Et c'est très difficile de faire apparaître les archives parce que franchement, c'est pas... Là, il a eu de la chance, Frédéric, puisqu'il a trouvé un procès. Il y a eu un procès pour quelqu'un qu'on avait enfermé dans un cachot de 1 mètre de haut sur 1 mètre 50, etc. Donc il a trouvé un procès et il a les actes. Donc on peut savoir, mais quand il n'y a pas de procès, comment on fait? C'est très compliqué. Voici quelqu'un qui assiste à un bamboula, comme il dit, en 1832 en Martinique. Ça se passe à Saint-Pierre, en pleine ville, et c'est l'euphorie, ça fonctionne bien, etc. Et tout se passe a priori comme on pourrait l'imaginer, et il se pose la question, mais comment tout cela va finir? Qui viendra mettre un terme à cette scène d'exaltation et de sinistre jouissance? ça c'est les termes de journaliste de l'époque. Des archers de la ville que je n'avais pas encore aperçus s'élancent, un air de bœuf à la main, ils se précipitent sur tous les noirs qu'ils rencontrent, on crie, on frappe, on fuit, on poursuit partout, et bientôt la foule pourchassée dans tous les recoins s'écoule mugissante sous le fouet, partout où elle trouve une issue. Voilà, une séance de musique et de danse en 1832, à Saint-Pierre, qui se termine de cette façon. Un exemple parmi d'autres. Et un autre exemple célèbre, celui-ci, qui concerne Adèle. Alors, Adèle était une esclave martiniquaise qui avait été condamnée, et voici la demande qu'adresse Cyril Bicette à Louis-Philippe. Le titre de la demande à lui seul signifie tout. « Demande en grâce pour Adèle, jeune esclave de la Martinique, condamnée à la peine du fouet pour avoir chanté la Parisienne. » Adèle est condamnée à 18 coups de fouet, Adèle est enceinte, et elle a chanté l'hymne national de l'époque. L'époque, Louis-Philippe, il y avait un hymne qui s'appelait « La Parisienne ». Elle a chanté « La Parisienne » en remplaçant tous les mots, c'était une résistante, on peut dire ça comme ça, elle a remplacé tous les mots dans lesquels, c'est à peu près le même texte que la Marseillaise, mais sur une autre musique, les mots où il est question de tyran, les mots des questions d'ennemis, etc., elle a mis à la place colon, colon, colon. Elle a chanté ça, donc elle est condamnée à être fouettée. Cyril Bicette n'aura pas gain de cause et Adèle sera fouettée. Voilà. On est en 1832, à 15 ans de l'abolition. Donc ça, c'est l'arrêté. C'est l'arrêté sur place.